entendu ça à quelques occasions de Catherine Dorion, de qui je serai le meilleur critique à partir de désormais. T'as vu qu'elle est rendue chroniqueuse au FM 93?
Non!
Ça faisait un mois, et non plus que ça, avant qu'elle soit élue, je l'avais demandé.
Non, mais depuis l'automne que tu travailles sur le dossier.
Ils sont même pas sacrés de rappeler les gens qui appellent. Mais là, le FM 93 appelle, ah ben là, hé hé! Doit avoir une pièce ou deux au bout de ça, ouais, j'ai l'impression. Certainement. Des bons socialistes qui marchent au cash. C'est le fun, ça. Éric Lantier, il est pas de même. Il est au bout du fil. Salut, mon ami.
Allô, allô. Elle est vraie, elle est bonne, mais en même temps, il y a un peu de vrai derrière tout ça.
Ah, c'est pas. J'ai pas fini, moi. Sérieusement, checkez-moi bien. La passe, je la trouve pas drôle, pas à toute. Hey, on va parler d'autre chose avant que je m'énerve un petit peu. On a Denise Bombardier qui se mêle encore de la jeunesse de nos jours. Elle me fait rire. J'aime généralement sa plume, ce qu'elle amène. Et là, j'ai pas lu l'article dont tu veux faire mention, mais elle parle de santé mentale chez les jeunes. Est-ce qu'elle met ça sur le dos de trop de Facebook, là? Je la vois venir, me semble. Non?
Non. Elle se questionne parce que, l'Institut de la statistique du Québec au mois de décembre avait mentionné que autour de 29% des jeunes font face à des problèmes de santé mentale, puis elle se préoccupe avec ça. Puis ce qu'elle dit, on devrait mettre sur pied une commission d'enquête sur la souffrance mentale de nos enfants.
Oh, OK. Elle se préoccupe. La tangente gentille avec ça. C'est quand même, oui, préoccupant. Un jeune sur trois, à peu près, qui aurait des problèmes de santé mentale. Mais ça a-tu changé? Pas certain. C'est juste que dans le temps, c'est un coup de pied dans le cul, puis il va jouer dehors à la place de penser à ça, non? Peux-tu?
Ben, c'est que les statistiques depuis 2010-2011, on voit une nette augmentation des problèmes de santé mentaux, et c'est pour ça que ça préoccupe plusieurs personnes, dont Denise Bombardier. Et elle soulève une série de questions. En fait, elle soulève 7 questions, par exemple sur l'absence de la présence des grands-parents, de la famille éloignée. Est-ce que justement le fait que les enfants vont à la garderie très tôt, est-ce que ça l'affecte les enfants? Puis elle dit, on devrait avoir une enquête sur ces questions pertinentes qu'on se pose toutes, mais qu'on n'ose pas poser, puis voir avoir un regard scientifique et objectif sur ces grandes questions-là. Et je trouve ça pertinent parce que si on se les pose pas, puis si on cherche pas à trouver des réponses, eh bien, à ce moment-là, on n'aura peut-être pas des solutions, ou les solutions qu'on va entreprendre sont peut-être pas adéquates.
Petite piste, certainement pas scientifique, vraiment pas. Moins t'as de problèmes, plus peut-être ça peut être une porte ouverte à des problèmes de santé mentale. Je sais pas, là. Mais on n'entend pas ça, qu'il y a des augmentations comme ça dans les pays où ça va moins bien. Quand tu dois te préoccuper de ce que tu vas manger et où tu vas dormir, l'eau potable, la chaleur, etc., ça a peut-être moins de chances de se développer. Évidemment que c'est vraiment encore, je répète, loin d'être scientifique. Puis Joe, corrige-moi donc.
À rajouter dans la balance, je pense que le diagnostic aussi, les moyens qui sont en place pour diagnostiquer ces gens-là, et puis à vrai dire, ce qui est de la santé mentale, je pense qu'il y a eu une grosse évolution aussi au cours des dernières années. Il y a eu davantage de maladies qui ont été mises sur la table qui n'existaient pas avant. Ouais. Donc, quand c'est inexistant, on peut pas les analyser ni les compiler. Alors,
je
voulais
pas minimiser le problème non plus. Faut s'en préoccuper des gens qui sont atteints de ça. On s'entend tous là-dessus. On s'entendait pas mal tous sur une réforme du mode de scrutin du côté des libéraux avant qu'on prenne le pouvoir à Ottawa. Et finalement, il s'est rien passé. Mais à Québec, semblerait qu'on risque d'aller de l'avant prochainement pour amener la fameuse proportionnelle. Il y a quelque chose qui s'en vient dans les semaines à venir, Éric.
Oui, même on pense qu'au printemps, il pourrait y avoir une loi qui va être, ou un projet de loi qui va être déposé à l'Assemblée nationale, parce que, comme on le sait, le Parti québécois, le Parti vert, Québec solidaire et la CAQ étaient d'accord avant les élections du 1er octobre à ce qu'on fasse une réforme à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on apprend par le devoir, c'est qu'il y a de plus en plus de libéraux qui étaient hostiles avant les élections, qui commencent à zioter, comme on dit en bon québécois, cette avenue-là.
Ah, ouais?
Ouais. Ben, on pense à Alexandre Taillefer, on pense à Sébastien Proulx.
OK.
Et même Gilles Ouimet, qui était du PLQ.
OK. Et
là, on commence à penser à ça. Là où est-ce que tout n'est pas gagné, c'est que ça a l'air que dans les rangs de la CAQ, il y en a que ça leur tente moins, parce que là, ils se disent, ouais, mais là, avec 37%, par exemple, on serait pas capable d'avoir...
Il n'y aurait pas eu la majorité. Il n'y aurait pas eu la majorité, là.
Le classique!
Eh oui.
Ah, ouais. Moi, personnellement, j'en veux pas de réforme de scrutin. Je veux pas changer une formule gagnante. Je considère que notre démocratie est une des plus en santé au monde. Et je sais que je suis à peu près tout seul dans ma gang. Mais si ça se généralise, à moi, on n'aura pas le choix. La CAQ, à date, ils ont l'air de vraiment vouloir se tenir au programme puis aux promesses de campagne. Alors, ce serait surprenant qu'on s'évite ça, cette réforme de scrutin-là. Parlant de réforme, on a évité de justesse, peut-être, que les prêtres puissent se marier désormais dans l'Église catholique. Tu voulais nous parler de la dernière décision du pape, dont on entend moins parler depuis un petit bout de temps. Puis là, il y a comme deux, trois affaires qui arrivent en même temps, dont ça, c'est non.
Oui, c'est malheureux, parce que, écoute, c'est tout à fait normal de désirer se marier, et c'est tout à fait normal, même si on est un prêtre, de vouloir fonder une famille, puis même c'est encore mieux, parce que lorsque tu as une épouse, tu as des enfants... Tu vis la réalité de ce que tout le monde peut vivre dans une journée, dans une semaine, dans une année. Et personnellement, ça m'attriste que le pape ferme cette porte-là. Il laisse juste une petite porte ouverte. Il dit, par exemple, si on est en Amazonie ou dans une île du Pacifique, puis il n'y a pas de prêtre, on pourrait engager quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, pour officier une partie des responsabilités du prêtre. On l'appellera pas prêtre, mais il va être comme au service de la communauté. C'est les seules exceptions qu'il pourrait tolérer.
Bon. Et, bon, ils ont ouvert une petite craque dans la porte.
Sincèrement, c'est expliqué. C'est quoi l'argumentation valable derrière ce choix-là, mon cher Eric?
Ben, OK. Il y a deux éléments là-dedans. Premièrement, il se base sur un texte biblique où est-ce que Saint Paul va dire, Moi, je préférerais que tout le monde soit célibataire pour être au service du Seigneur. Il dit donc, si tu te maries, c'est bien. Si tu restes célibataire, c'est mieux dans un contexte de service. Par contre, le même Saint-Paul va écrire une lettre à un de ses disciples, Timothée, puis va dire, si tu veux là que la communauté engage un pasteur, un évêque, ben il doit être marié d'une seule femme, parce qu'il ne doit pas pratiquer la polygamie. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire très clairement que le Saint-Paul, l'apôtre Paul, était pas contre le mariage. Il disait que, par exemple, quand t'es marié, ça va t'amener des soucis, puis quand t'es pas marié, ben t'as moins de soucis parce que t'es tout seul. Mais ça veut pas dire que ça doit pas être fait, puis ça doit pas être honoré.
Mais c'est ça. Alors, puis si on évite les mariages multiples, on évite l'espèce d'amas de problématiques qui peut venir avec ça. Si on en a juste un, c'est plus simple.
Exact.
Fait qu'il y a de quoi dans les textes pour aller de l'avant, mais c'est à l'intérieur de l'Église. Il y a des forces qui veulent que ça bouge pas. Mm-hmm. Et ça, c'est un peu plus difficile à pointer. Et ces gens-là sont pas nécessairement au grand jour, sont certainement pas élus. Est-ce que tu connais des instances, l'Opus Dei, exemple? T'as-tu d'autres pistes de forces au sein de l'Église qui empêchent des avancées?
Écoute, je crois qu'il y a une question économique, parce que si un prêtre est seul et célibataire, c'est sûr qu'il va être moins exigeant point de vue salaire, point de vue honoraire, tout ça. Tandis que si une femme et des enfants, c'est sûr qu'économiquement, il va avoir une revendication vers la hausse pour justement. Et en ce moment, dans les paroisses, les entrées d'argent sont pas très abondantes parce que justement les paroisses délaissent l'Église institutionnelle, et donc les gens s'intéressent plus à l'œuvre humanitaire, à avoir un contact direct avec la communauté pour ceux qui ont encore une certaine foi catholique. Donc, mais inévitablement, dans les prochaines décennies, il va certainement y avoir un changement, parce que à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va vouloir aller puis répondre à cet appel, cette vocation-là. Se diriger vers la prêtrise. Donc, je pense que le prochain pape, celui qui va être son successeur, devra ouvrir la porte un peu plus grande, à mon avis.
En même temps, les religions, ils s'empêtent dans leurs propres problèmes, ben, qui crèvent. C'est mauvais, c'est nocif de suivre des choses à la lettre comme ça. Oui, il y a bien des bonnes affaires, mais t'es pas obligé d'être rentré jusqu'au coude dans la patente. T'as juste à observer puis faire ta propre vie puis grappiller des principes par-ci par-là. Il y en a dans toutes les religions des bons. Alors, incitons les gens au jugement et non au suivage.
C'est ça, mais chez les protestants, par exemple, eh bien, les pasteurs se marient et ils ont de bons exemples, puis ils ont un modèle qui pourraient imiter en disant, ben, on va s'inspirer. Ce sont des chrétiens, les protestants font partie de la grande famille des chrétiens.
Mais ça, historiquement, que l'Église catholique se mette à suivre ce que l'Église protestante au sens large, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup sectaire et qu'il y a divers courants. C'est pas centralisé comme l'Église romaine. Ça serait quand même assez drôle, puis finalement, une espèce de ça serait déclaré qu'ils ont perdu un peu la lutte.
J'ai même l'impression que ça les empêche de le faire. Ben là, on peut pas faire comme eux autres, c'est nos ennemis depuis toujours. Penses-tu qu'il y a de ça? Ils sont dépassés ça, j'espère.
Je pense que la réflexion dépasse ça. S'ils arrivent, par exemple, à changer d'optique là-dessus, ça sera pas en comparaison avec les protestants, ça va être plus... Mais on a compris que c'est une meilleure chose pour nous, puis pour notre communauté ou nos communautés catholiques. Je pense qu'ils vont s'approprier la bonne idée.
On peut en apprendre plus sur ce genre de choses sur ton site, dont je te laisse mentionner l'adresse avant de te laisser.
Ben, c'est simple, c'est mon nom, tout collé ensemble, ericlantier.net. Donc, voilà. Vous avez simplement à aller sur une barre de recherche et vous allez le trouver assez rapidement.
Merci, mon ami. À lundi prochain.
Au plaisir. Au revoir.
Restez avec nous autres. On s'arrête quelques instants avec un peu de musique, un peu de publicité. Soyez gentils avec nos commanditaires. Après ça, il y a le défi historique. Il y a plein de belles choses à vous raconter. Bougez pas. 96.9.